pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons.
T'as pas une gueule de porte-bonheur.
Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 183. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler un peu de tout ça, mais en vrac, parce que ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas enregistré un épisode. La dernière fois, on était resté sur Cliffhanger, incendie, pas incendie, Los Angeles, qu'est-ce qui se passe? Je suis sûr qu'il s'est passé plein de choses aux États-Unis, n'est-ce pas Benjamin?
Oui, bonjour Daniel. Alors,
par où commencer?
Ouais, c'est difficile. Il n'avait pas encore été investi l'autre pendant quand on a fait notre dernier épisode, si, je sais plus.
François Bayrou aussi.
Non, c'est pas à lui que je pensais.
François Bayrou aussi, et il est encore là, figure-toi. Pourquoi je place François Bayrou à tous les débuts d'épisode? Pas parce que j'y pense souvent, quoique j'y pensais souvent, mais en 2002. Non, pourquoi j'en parle, c'est que c'est comme ça, ça laisse une petite trace temporelle de l'épisode pour que les gens, qui, si jamais d'aventure vous nous écoutez dans 5-6 ans et que vous remontez peut-être la timeline et vous dites « Ah, c'était ce moment-là, c'était ces 3 mois où il était Premier ministre, voilà. Bah, » et du coup, j'aime bien laisser une petite trace, un petit quelque chose pour te raccrocher temporellement.
Alors, en parlant
les épisodes Covid étaient particuliers à ce propos.
Ouais. En parlant de laisser une petite trace, donc le précédent épisode était publié le 23 janvier, mais si je regarde, il était enregistré le 19, donc la veille de l'investiture de Trump.
Exactement. T'étais allé arroser ça avec tes voisins.
J'étais encore en zone libre quand on a enregistré le podcast. Eh ben, que dire, depuis le dernier épisode, globalement, la destruction des US est en bonne voie. Hein. Déjà, je ne sais même pas si j'ai dit bonjour. Bonjour Daniel, bonjour les auditeurs.
Salut.
C'est une situation un petit peu compliquée. Donc oui, la destruction du pays est en bonne voie, hein, mais pas que du pays, globalement. Hein, l'Ukraine, l'Europe, le Canada, tout ça, toutes les conneries. Et puis Elon Musk, qu'on laisse faire tout ce qu'il veut, comme s'il avait une quelconque autorité. Enfin bref. Ça n'est pas très drôle, en fait, ce qui se passe depuis quelques semaines. C'est pas drôle du tout, en fait. Donc voilà, donc c'est ça la situation
actuelle. Mike
Myers
tient un très bon Elon Musk, j'ai vu.
Alors, j'ai pas du tout regardé le SNL dernièrement,
ouais,
non, donc je ne sais pas.
Si tu vas encore sur Twitter, parfois il y a des extraits qui bullent, mais bon, maintenant, on a renoncé à ça.
Alors, j'ai fait un saut sur Twitter vite fait pour annoncer la sortie du premier vrai épisode de la saison 2 de La Moto de qui déjà, un podcast que j'anime avec nos amis Camille et Brice, dans lequel nous parlons du dernier méfait d'Ernest Cline qui s'appelle Bridge to Bad City. Et donc, je suis passé sur Twitter pour poster. Et alors, mon onglet pour vous, c'est pire qu'une déchetterie, c'est limite radioactif, quoi. Donc, bref, je pense pas qu'il y ait encore un intérêt à aller sur Twitter pour poster quand il y a un nouvel épisode.
Qu'on parlerait de ça tout de suite, mais on en a parlé un petit peu entre nous, l'équipe de Soumimasen, puisqu'on est présent et sur Twitter et sur Blue Sky. Mmh. En fait, on a une raison, entre guillemets, de rester sur Twitter, c'est que le public japonais, il est encore massivement sur Twitter, et surtout les artistes japonais. Les artistes qu'on suit, les éditeurs, ils sont tous encore sur Twitter. Et en plus, Twitter, c'est le pays sur lequel... le Japon est le pays sur lequel Twitter a vraiment éclos. Le premier, c'était sur Twitter. Donc, c'est notre raison pour laquelle, moi, je garde toujours un œil dessus et que j'ai encore ça. Mais y a des gens qui nous ont traités de gauchistes. Alors, c'est mal nous connaître déjà. Bon, Pouillot, je peux pas dire, mais il y a moi et il y a surtout Greg. Genre, vous faites erreur sur la personne, quoi. Mais on s'est fait traiter de. Il y a quelques mecs un peu réac qui nous ont dit oh là là, mais vous laissez dicter vos choix par machin. Et tu sais quoi? Moi, je prends objectivement Twitter aujourd'hui et je tombe sur des pubs de la Sciento. Je n'ai pas envie de ça. Je ne veux pas ça et je vois pas pourquoi tu mettrais à insulter quelqu'un qui ne veut pas subir ce genre de choses. Donc voilà, c'était un peu pas le casus belli, hein, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres avant, mais celui-là, c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était depuis un an, c'était un peu la bouillabaisse et octobre, là, c'était vraiment le pire moment, quoi. Et Benji, Heureusement, on n'est pas là pour parler de Twitter.
On n'est pas là pour parler Twitter, on n'est pas là pour parler de politique non plus. Hein. Bon, on est deux jours après le désolant spectacle de la visite de Zelensky à la Maison Blanche où Trump et Vance ont été absolument abjects. Donc voilà.
Je suis désolé, j'ai regardé un peu Fox News, ils ont dit que c'était brillant. Ils ont dit que c'était non mais ils ont dit que c'était vraiment une tactique brillante et voilà, il fait les choses.
Ouais, non mais voilà, bon globalement l'OTAN globalement c'est en train de partir en latte. Les Nations Unies probablement que ça va partir en latte. Où est-ce que ça va tout ça? Écoute, je ne sais pas.
Je ne sais pas. Moi, il me faut un peu d'espoir. Et c'est pour ça que je vais au cinéma. Et je suis allé au salle. J'ai vu Captain America, Brave New World.
Eh bien, je l'ai vu aussi, Daniel. Sache-le. Oh,
quel hasard, vraiment.
Car moi aussi,
Tu t'es dit, je vais me changer la tête. Je vais regarder un film où le président des États-Unis devient Hulk.
Et chose qui est annoncée, qui n'est même pas un spoiler, puisque c'est sur l'affiche. C'était pas juste dans les trailers, hein, c'était sur les affiches, sur toute la campagne de promotion. Elle était axée sur le fait que Harrison Ford devenait Hulk. Et quand tu vois le film, tu comprends pourquoi. C'est parce que bah, y a rien d'autre, en fait. Globalement, il a rien d'autre à raconter, le film.
Après, le truc, c'est que moi, je connais les BD. Et je sais que même si tu mets un Hulk et que tu mets Ross, je sais qui est Hulk. On l'appelait Hulk. Hein,
ouais, Red Hulk, oui. Non, mais moi aussi, bien entendu, je connais les comics, mais honnêtement... Le film tout entier est monté comme si c'était un gros reveal, la grosse surprise, mais on le sait dès l'affiche en fait. Et je comprends toujours pas cette campagne marketing. Enfin, je la comprends sans la comprendre, quoi, quelque part. Mais tu veux peut-être parler du film dans ses grandes largeurs?
Alors, dans ses grandes largeurs, non, parce que clairement il n'a pas l'envergure de Falcon. C'est même un des plus gros problèmes, c'est que je pense que Anthony Mackie, il peut pas soutenir un film à lui tout seul. C'est-à-dire que autant les autres pouvaient espérer d'avoir quelque chose, je pense que le héros a tout simplement pas l'envergure. Il y a pas assez de... Il a juste un trauma de guerre qui a été évoqué dans Captain America, le premier film. Mais après, il est plus lisse que Steve Rogers, quoi.
Ok, alors, j'étais pas sûr de ce que tu voulais dire, mais on est d'accord que tu parles pas de l'acteur, tu parles de l'écriture du personnage, en fait.
Je parle de l'écriture du personnage. On est d'accord. Il paraît que c'est le mec le moins sympa du groupe.
C'est vrai.
Mais à skip, hein, mais on n'est pas là pour relayer les trucs, machin. Mais bon, en tout cas, je pense que le personnage est vraiment, genre, il est tel qu'il est écrit, il est assez creux et... Et il y a un moment où on lui dit « Vous n'êtes pas Steve Rogers ?» Ouais.
Ouais, je trouve ça un peu dommage parce que je trouvais que dans la série Falcon et Winter Soldier, il lui avait donné un peu d'épaisseur, il lui avait donné, tu vois, des enjeux, un vrai questionnement moral.
Mais surtout parce qu'il y a Winter Soldier en plus et que ça a apporté une espèce de bascule morale et tout.
Ouais,
et
mais, là, y a, mais tu si vois, il y a aussi Winter ses Soldier. Neveux, sa sœur, il y a toute sa situation familiale et tout. Et ça avait vraiment contribué un peu, je trouvais, à lui donner... lui donner une épaisseur, quoi. C'était autre chose que juste le sidekick de Steve Rogers qu'il double quand il fait de la course à pied, quoi.
Écoute, ouais, mais il faut quand même, c'est le problème de ces trucs. Soit tu vois la série et elle respecte à peu près ce qui est... Soit le mec, il a pas vu la série, il fait son film quand même. C'est ce qui s'est passé pour Doctor Strange. Mais là, en l'occurrence, ils ont vraiment bien regardé la série. Ils se sont dit, ouais, on prend des notes sur tout ce qui s'est passé. Eternals. Je pensais pas avoir autant d'Eternals matériel dans ce film-là.
Et pourtant, il n'y en a pas beaucoup.
Là, il y a Eternals... Non, mais il mentionne le Eternals qui avec la main au-dessus de l'océan.
Ouais, ouais. Il monte le Célestial dans l'océan.
Il monte le Célestial dans l'océan, pardon. Et cette espèce de soft spin-off de Hulk, ça, je m'y attendais vraiment pas.
Ah, mais c'est Hulk 2 pour moi. Plus que Captain America 4, je pense que c'est Hulk 2.
Ouais, ça fait très Hulk 2, et en plus, bon, il y a les Eternals, et en plus, c'est la suite d'une série télé. Tu sais quoi? Le fait que même Kojima, le mec qui a écrit Death Stranding et Metal Gear Solid, soit confus par ce qu'il a vu en disant « Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Captain America tout d'un coup ?» Parce qu'il a sans doute pas vu la série. Tu sais quoi?
Moi, il me semble qu'il a vu la série, mais je pense qu'il a dormi devant, parce que le film est quand même pas compliqué. Il est mal raconté, mais il est pas compliqué.
Ouais, et tu sens par contre le patchwork de Ritek, tu sens que ça a été réécrit 15 fois, tu vois clairement qu'ils sont jamais devant un décor naturel, mais alors jamais, il n'y a pas une fois où je me dis « Ah, c'est un décor naturel ».
C'est un film qui a pris 18 mois de retard, le temps de faire plein de reshoots, et il faut le dire, il y a eu 6 semaines de reshoots, 6 semaines pour certains films, c'est la totalité du tournage, quoi.
C'est un film entier.
Ouais.
Honnêtement, alors faut voir, tu sais, c'est comme les gens qui insultent Bohemian Rhapsody en disant « Ah, c'est quand même un film de merde et tout, le montage est dégueulasse. » Et quand tu penses en fait que c'est le monteur qui a sauvé le film, en fait, le peu de film qu'il avait à sauver, c'est lui qui l'a sauvé. Tu vois, alors, est-ce que ce qu'on voit, c'est vraiment nul. Et moi, je trouve que c'est... Enfin, dès les 10 premières minutes, on s'est regardé et on s'est dit... Mais pourquoi on regarde ça, quoi? Pourquoi? Parce que c'est vraiment pas bien. Il y a jamais un moment où t'es à un moment où tu vibres jamais. Enfin, c'est plutôt mal écrit.
Il y a un moment où Captain America fait du surf sur un missile, mais ça dure une demi-seconde. En fait, je voulais tout le film comme ça, moi. Mais malheureusement, ça dure une demi-seconde et c'est fini.
Ouais, et ensuite... Ah ouais, alors les séquences d'avion, les séquences avec les Japonais.
Le dogfight avec les Japonais, ouais.
Alors ça, c'était très très dur. Et honnêtement... Tu sais que le mois de mars arrive, donc bientôt on va faire le classement dans le vent.
Ouais.
Tu le sais. Mmh. Tu le sais, même si pendant le mois de février on n'a pas pu enregistrer l'épisode, c'est bon.
Ouais, ouais, ouais.
Le mois de mars arrive, c'est le moment où je dis. Hey,
Mais il fait plus qu'arriver, hein. on est le 2 mars aujourd'hui, à l'heure de l'enregistrement.
On l'enregistre, je pense, à fin mars en général, c'est vers la fin mars qu'on le fait.
Ouais, bah je pense que le prochain épisode ce sera ça, quoi.
Donc, pas sûr, mais on verra bien. Et peut-être l'actualité, on ne sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver. Bref, celui-là, je l'ai pas. Captain America, c'était. Et puis surtout, en fait, moi, je trouve qu'il fonctionne vraiment bien, c'est la dichotomie Winter Soldier et Falcon, parce que c'est quand même deux mecs qui sont techniquement ses héritiers, et il y en a un qui dit allez, vas-y, prends le shield parce que c'est toi qui le représente mieux. Mais clairement, c'est Bucky qui est plutôt qui serait le bon gars. Mais ils doivent préparer. Ils ont une rampe de lancement pour d'autres films j'imagine aussi intéressants que celui-là.
Bah Thunderbolts, oui, voilà, tu peux le dire. Hein. Thunderbolts qui s'annonce avec Bucky en chef d'équipe, une équipe de bracass. Et puis Bucky qu'on te présente dans ce film-là comme futur. Il est futur quoi, sénateur ou enfin je sais plus. Mais globalement, il se lance en politique, quoi, Bucky.
Ouais. Ouais, Bucky, je sais pas comment on en arrive là, mais tu sais quoi, ça c'est bien la preuve qu'ils ont bien compris un truc, que les gens oublient le monde politique. Mmh. Ils oublient le fait que t'as des casseroles au cul. Et Thunderbolt, c'est un peu la preuve que Balkany, en fait, finalement, il pourrait être dans n'importe quelle situation.
Non, mais il y a vraiment d'énormes problèmes d'écriture dans ce film, et ça se voit jusqu'au méchant, dont le plan perso, je ne le comprends toujours pas, hein. Le méchant, donc, qui est donc le Thinker, qui était le...
Non, le leader.
Le leader, pardon, pas le Thinker. Le leader qu'on voit donc à la fin du premier Hulk.
Et visuellement, à chier. Genre, il ne ressemble à rien du tout. Ils lui ont fait une espèce de bouton, machin, c'est dégueulasse.
C'est Tim Blake Nelson avec une grosse prothèse moche. Et surtout, moi, ce que je comprends pas, c'est à la toute fin, et là, je vais spoiler la toute fin, donc si vous ne voulez pas entendre la toute fin, avancez de quelques minutes. Mais globalement, t'as déjà lui, son plan... Pourquoi il se laisse prendre? Ça lui sert à quoi de se laisser prendre, en fait, au leader? Enfin, il dit « Ah, je vais être obligé de me rendre », mais non. Qu'est-ce qui t'oblige à te rendre, sachant que la suite de ton plan, c'est une bande audio qui passe pendant un speech du président Ross, et une bande audio qu'on pourrait très facilement couper. Enfin, je veux dire, c'est super simple de débrancher une prise quand tu vois que ton flux audio il est en train de se faire hijacker. Donc, je ne comprends absolument pas... Comment ça peut être écrit, validé et finir dans un film qui a coûté 150 patates, un truc pareil. C'était d'une idiotie. Bon sang, c'était d'une idiotie, cette fin. Enfin bref, globalement, non, c'était pas bien. C'était pas bien.
Est-ce qu'au moins, au box-office, ça a donné quoi?
Je crois que ça a fait... c'en est à 300 millions, ce qui est globalement nul, sachant que le budget était à au moins 150.
On est dans le très low tier de Marvel, quand même.
Ah ouais, oui, non, c'est vraiment en train de pas marcher, quoi. J'appellerais pas ça un bide... Parce que ça
je va... dirais que ça n'a pas marché.
Ouais, non, mais voilà, ça va peut-être break even, mais globalement, ça va pas faire d'argent, quoi. Après, est-ce qu'ils espéraient vraiment faire de l'argent sur un truc pareil, un projet malade, repoussé autant, re-shooté autant, j'en sais rien. J'en sais rien du tout.
Je me demande, qu'est-ce qu'ils avaient en tête sur celui-là, je sais pas. Mais bon, la prochaine étape, c'est le mois d'avril avec Thunderbolt. Ça y est, on est reparti sur une trilogie annuelle. Ouais, quoi.
Trois films cette année. Alors, il y en a un que j'attends, c'est Fantastic Four, Thunderbolt. Je ne cache pas que j'en ai vraiment rien à cirer. Quoi.
Fantastic Four, les gens ont encore de l'espoir, mais tu sais, moi...
Je serais content de revoir Yelena dans Thunderbolt, mais c'est vraiment le seul personnage que j'ai envie de revoir.
Yelena, tu veux dire la White Widow?
La nouvelle, voilà, la White Widow, c'est parce que c'est Flo-Flo, quoi. Mais sinon, les autres, je m'en tape, quoi.
Florence Pugh qui imite pendant 2 heures l'accent russe.
Ah,
c'est
moi,
quand même...
Moi, j'y vais pour ça, moi. Moi, ça va me donner du bonheur. Rien que de t'imaginer, en plus, crispé contre ton siège.
Mais tu sais quoi, en plus, elle le fait vraiment de manière charmante. Hein. Elle est vraiment adorable, quoi. Franchement, Florence Pugh, c'est le genre de star, je me dis, ah, si elle est dégueulasse avec les gens, je serais vraiment deg.
Ouais, y a, tu vois, il y a elle où tu dis, j'espère qu'elle est sympa dans la vie. Il y a Jennifer Lawrence, c'est des actrices comme ça, tu dis, j'espère vraiment qu'elles sont sympas dans la vie, parce que c'est, à l'écran, c'est ce qu'elles donnent, quoi.
C'est clair. Bon, écoute, on emballe celui-là.
Ouais, on est globalement plutôt négatif sur Captain America 4, hein. c'était pas bien.
Tu as dit plusieurs fois le mot bref.
Toi aussi, tu l'as dit à un moment.
Ouais, à un moment, j'ai dit bref. Oh, c'est con, je suis en train de me dire, ah non, t'es aux États-Unis, t'as pas pu le voir parce que c'est pas diffusé.
Parce que c'est pas dispo sur Disney+.
C'est region lock. Mais s'il te plaît, dis-moi que ton cousin de France t'a envoyé les cassettes en VHS.
J'ai regardé premier épisode sur YouTube puisqu'il était disponible. Et ensuite, j'ai contacté mon cousin qui m'a enregistré la VHS et qui me l'a envoyé.
Je suis soulagé, Benji. Vraiment, c'est soulagé.
Et voilà, donc cette saison 2, bref, une saison de 10 ans après, il y a même une blague là-dessus dans la série. 6 épisodes qui durent 35 minutes à peu près environ chacun, par rapport à des pastilles qui duraient 3-4 minutes. J'avais très très peur au début que le rythme ne fonctionne plus en fait, et moi j'ai été cueilli, ça a vraiment fonctionné en fait. J'ai vraiment vraiment beaucoup aimé cette saison 2 de bref. J'ai retrouvé ce qui m'avait plu, j'ai retrouvé les personnages que j'avais aimés. J'ai trouvé ça vraiment bien écrit et bien vu, et surtout avec une vraie introspection sur le personnage qui n'existait pas vraiment dans la saison 1. Dans la saison 1, on te présentait le personnage un peu comme un loser, mais il n'y avait pas tellement de remise en question, ça appuyait pas tellement le fait que le mec était un connard, en fait. Et là, c'est tout le sujet de la saison 2, en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et je sais pas ce que toi t'en as pensé avant qu'on parte dans les détails, mais voilà.
Je suis beaucoup plus partagé que toi.
Ouais.
Parce que, disons déjà mon relationnel à la première saison, c'était que il y avait les épisodes, les classicos qui ont fait la popularité du format qui étaient la clé USB, je l'ai mis à l'endroit et ça marche pas, je l'ai mis à l'endroit et ça marche pas, et genre, bref, j'ai réussi à mettre la clé USB, tu vois, c'était le postulat de base. Et puis ensuite, au fur et à mesure, c'est devenu un truc un peu métaphorique et tout ça, et... Je sais pas si ça marchait à tous les coups sur moi, en fait. Parfois, il y a des moments où je me disais, c'est un petit peu, c'est un peu gros sabot, c'est un peu lourd. Ça m'arrivait de penser ça, en tout cas, sur certains épisodes.
Mm-hmm.
Et cette seconde saison, il y a des grosses métaphores qui sont genre un peu pénibles parce que t'as compris au bout d'un moment et tu veux plus les voir parce qu'elles sont un peu stupides. Je pense notamment, il y a un truc de, il se met en couple avec une fille et du coup, il y a une voiture.
Ah, la métaphore de la bagnole, ouais.
Et alors, la métaphore de la voiture, c'est on fait des kilomètres ensemble. Si tu lui mens, et bah, tout d'un coup, c'est comme si tu avais mis de l'eau dans le réservoir et que ensuite la courroie, tu lui faisais remplacer par un lacet. Et au fur et à mesure que tu lui mens, et bah, la relation, elle va exploser parce que c'est comme ça que ça se passe, les relations. Je suis un peu perplexe parce que c'est quand même une série qui se pose plein de questions sur, évidemment, sur la masculinité, en mettant un personnage complètement... imbitable, et ils le disent plusieurs fois, hein, que c'est un connard.
Ah,
et
c'est
que
un énorme connard, ouais.
C'est un connard, et qu'on est obligé de lui montrer avec le doigt, de mettre le doigt. D'ailleurs, à tel point que sa déconstruction, puisque c'est ça hein, qui arrive, c'est qu'il se déconstruit, sa déconstruction, elle arrive parce que c'est une fille qui lui montre. Et ensuite, et les gens lui font... Ah là là, mais en fait, t'es un gars bien, t'as réfléchi sur toi-même et tout ça. Mais non, non, c'est même pas lui. C'est genre vraiment jusqu'au bout, c'est quelqu'un qui lui montre le chemin à chaque fois. Du coup, j'ai pas de capital sympathie pour le protagoniste. Et cette seconde saison qui est supposée lui amener un peu de lest, tu vois, c'est pire qu'avant en fait. Je le trouve, il est ulcérant ce mec. Mon relationnel à la série, c'est que j'aime moins. Que voilà, j'aime moins que j'aurais pensé, mais par contre, évidemment, quand tu sors la grosse artillerie, c'est-à-dire la maladie, la mort et les choses comme ça auxquelles moi-même j'ai été confronté dans ma vie, dans mes proches, genre évidemment, j'ai vu le truc arriver, et quand je vois le truc arriver, pour te dire, quand je vois le truc arriver, ça marche moins, ça marche pas sur moi en fait. Et j'étais, je peux balancer, hein, j'étais avec ma compagne, et elle a le fameux épisode de la... Voilà, il y a un personnage un peu important qui va mourir dans la série. Et quand arrive son décès, genre c'est une fin d'épisode et tout, et moi j'ai senti arriver mais genre à 2000 trucs et ça m'a zéro ému. J'ai dit ah ok, c'est ça qui ils vont dans cette direction et on va aller, et ça va être cette direction un peu difficile avec un petit peu de vanne pour te souvenir des vivants. Donc ça a pas trop marché sur moi bizarrement, mais je trouve ça pas mal fait. Je comprends que ça fonctionne sur plein de gens, mais moi ça, en tout cas, ça a zéro fonctionné. Enfin pas zéro, mais tu vois un petit peu quoi. Vas-y, tu veux peut-être, je veux pas monopoliser la parole, tu veux peut-être
ouais, rebondir dessus. En fait, je suis pas vraiment d'accord avec toi. C'est pas tout le temps des filles qui lui prouvent qu'il est un connard. Je trouve qu'il y a un vrai travail d'introspection. Alors oui, ça arrive que parfois ce soit des meufs qui lui disent, mais ça arrive aussi que ce soit ses potes, et ça arrive aussi qu'il s'en rende compte tout seul en fait, en voyant le comportement des autres, en voyant notamment le comportement de son pote toxique, en voyant comment il a réagi au moment justement du décès de ce personnage important. Il y a une part d'introspection. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas systématiquement une meuf qui lui montre la voie.
Bah, moi, j'ai cette impression parce que c'était ce qui est arrivé dans la série, et qu'il y a toujours quelqu'un pour lui dire hey. Il a besoin de se faire guider à chaque fois, il a besoin de se faire guider pour trouver un taf, il a besoin de se faire guider pour reperdre son taf et retrouver un taf, il a toujours besoin de quelqu'un. Ce personnage est tellement creux qu'il a besoin toujours d'être amené vers la proposition suivante par quelqu'un d'autre, que ça soit dans les relations humaines, que ce soit dans les relations de travail, c'est toujours quelqu'un qui a besoin de le prendre par la main.
Bah, je suis pas d'accord non plus, parce que le taf justement qui finit par aimer, il le trouve tout seul. Après oui, il a besoin d'un petit coup de pouce pour que sa carrière continue, ouais. Clairement, mais le taf, finalement il le trouve tout seul, puisqu'il cherche un taf qui va lui correspondre et qui va aimer. Alors oui, c'est sûr, c'est sur un conseil de son frère qui lui dit « bah non, mais t'es pas obligé de faire un boulot que t'aimes pas ». Moi, le principal problème que j'ai avec la série, c'est justement qu'il est lié, à ce boulot. C'est que, en fait, on t'explique que t'es heureux quand t'as un boulot dans lequel tu comptes pas tes heures. Et alors là j'ai un petit peu grincé des dents là. Ah, ok, il fait un travail passion, donc en fait, il compte pas ses heures. Donc en fait, il bosse de 6h du matin à 9h du soir et il est heureux. Ça m'a un petit peu dérangé.
C'est le même argument qu'on peut dire que son équilibre de bonheur, il n'est atteint que s'il est en couple. Et genre, cette idée de c'est uniquement si t'es en couple que tu t'épanouis, et genre, ouf. Est-ce que vraiment c'était ça qu'il voulait ? Est-ce que c'était vraiment ça qu'il voulait faire ?
Et c'est bizarre parce
que
c'est
l'impression, c'est l'impression que ça donne à chaque fois, quoi.
La première saison, en plus, se terminait pas comme ça. La première saison, elle se termine, il est célibataire et ça a l'air d'aller en fait. Donc en fait, il y a vraiment un revirement de ce côté-là où sur son idée du bonheur, c'est vraiment, comme tu dis, d'être en couple, d'avoir un travail. Enfin, c'est un truc de petits bourgeois, quoi. T'es en couple, t'as ton enfant, t'as ton petit appart de banlieue ou ton petit appart à Paris. C'est une idée du bonheur qui est un petit peu bizarre, en fait. Je reste quand même très satisfait de cette saison parce que oui, même si moi aussi j'ai un peu vu venir le décès du personnage dont tu parles, ça m'a quand même cueilli. Voilà, bon, j'étais pas franchement obligé de... J'avais pas forcément envie d'en reparler, mais j'ai moi aussi subi un décès cette semaine. Bon, c'était mon chat. C'était pas un proche, mais ça restait quand même
un truc qui m'a
beaucoup touché, voilà, et qui m'a beaucoup... cette semaine, c'était vraiment compliqué, quoi. Et du coup, voir ça dans Bref, ça en a rajouté une couche parce que c'était un peu trop proche. Donc ouais, moi, ça a vraiment fonctionné. C'est pas parfait. Je trouve qu'il y a encore des maladresses d'écriture et il y a des trucs sur lesquels je suis vraiment pas d'accord. Mais tu vois, moi, je pense qu'il y a vraiment une réflexion sur le personnage et sur comment il devait se déconstruire. Et pour le coup, moi, je trouve qu'il y a un vrai travail d'introspection qu'il fait. Alors oui, certes, il a des coups de pouce à droite à gauche, mais il y a des trucs où il s'en rend compte tout seul, quoi. Il se rend compte tout seul que son pote est toxique, même si c'est via le prisme de la relation qu'il a avec sa coloc.
Parce qu'on parle d'un mec qui est venu gueuler sous sa fenêtre et qui est rentré de force plusieurs fois dans son appart et tout. Je pense qu'au bout d'un moment, il y avait... Comme dirait un notaire, convergence de preuves, tu vois.
Oui, c'est bien sûr. Non, mais c'est évident que c'est pas le mec le plus dégourdi de la terre et que oui, il a besoin que ça soit en face de lui pour qu'il s'en rende compte, quoi. Mais tu vois, moi, je pense qu'il y a quand même eu un effort de fait là-dessus, et probablement en réponse à des critiques qui avaient été faites à la première saison où globalement on leur disait mais votre personnage, en fait, il évolue jamais, ça reste un con, quoi. Donc non, j'ai apprécié, j'ai trouvé ça vraiment 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 chouette, alors que c'était casse-gueule, quoi. C'était vraiment casse-gueule et globalement, je trouve que ça a atteint ses objectifs.
Alors, ces objectifs, je pense que pour eux, le but, c'était quand même de faire parler d'eux Et ça, par contre, on peut dire qu'ils ont réussi leur truc. Parce que pendant une semaine, les gens... Je dis pas qu'ils pouvaient parler que de ça, mais c'est-à-dire, ça occupait un peu l'espace médiatique. Les gens reparlaient de Bref comme si c'était quelque chose d'aussi important qu'avant, ou presque aussi important qu'avant. Ils parlaient aussi du fait que bah, c'est plus Canal+ qui le produit, mais maintenant, c'était Disney. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Ça veut dire que Canal+ s'y a pas cru, et ça, je pense que c'est une belle connerie quand même.
Ben, j'ai envie de dire, heureusement qu'ils ont fait parler d'eux quand même, parce que le projet était casse-gueule, mmh. parce que ça leur a sûrement coûté des sous. Il y a quand même pas mal de prod et de budget là-dedans. Mmh. Même si c'est une métaphore assez lourdingue, des scènes où t'as l'impression d'être dans Starship Troopers, bon, voilà quoi. Ils ont mis du pognon. Alors, heureusement qu'ils ont fait parler d'eux. Moi, je suis content pour eux que ça ait marché.
Donc, oui, en termes de réussite, en termes de occupation de territoire, ouais, d'accord.
Mais ouais, en termes de buzz, mais je trouve qu'artistiquement, c'est réussi.
Ouais, je sais pas, je suis un peu perplexe. Je suis ni très satisfait de la fin. Les problèmes de ces filles, de tous les personnages féminins, c'est que c'est des manic pixie dream girl. Alors, évidemment, elles sont là pour mettre à un moment ou à un autre, toutes les meufs sont là pour mettre en emphase le fait que c'est un mec aussi très bien. Et puis évidemment, son ex. Genre, elles sont toutes là pour à un moment dire « Mais non, mais t'es un mec bien », et elles le font toutes. Et c'est quand même un des clichés les plus éculés de la rom-com. Mais, je te dirais que c'est aussi un cliché qu'on va retrouver cet été, puisque... c'est aussi le sujet du prochain film de Luc Besson.
Oh merde.
Et ouais, t'es au courant qu'il y a un nouveau Luc Besson?
Alors oui, j'étais au courant qu'il tournait un nouveau Luc. Mais tu sais que moi, Luc Besson, dernièrement, j'ai entendu parler de lui, mais pas pour les bonnes raisons, quoi.
Bah évidemment, je sais plus quelle raison, mais écoute.
Mais parce que Luc Besson a...
Encore?
C'est potin, mais Luc Besson a un nouvel amour.
Ah mais oui, c'est vrai qu'il a... Il a un nouvel amour. Mais oui, la surprise... incroyable, je suis surpris d'être très surpris. Et, mais en fait, son prochain film s'appelle June and John. Et c'est un mec qui vit une existence complètement banale et qui tout d'un coup rencontre une belle et mystérieuse femme qui va le prendre par la main et lui dire que c'est quelqu'un de formidable. Genre, c'est marqué sur la bande-annonce. Et ce qui est génial, c'est que les mecs sur YouTube ou sur Twitter, là où tu peux marquer des commentaires, les gens disent « Ok, il y a deux choix. Soit c'est un truc de cavale classique, machin, et on a déjà vu ça des milliards de fois, soit, en fait, elle existe que dans sa tête. » Mais genre, c'est soit ces deux versions, il n'y a pas d'autre alternative possible à ce film, tellement il est cliché de chez cliché. J'espère qu'il nous écoute. Parce que on lui a quand même taillé des costards sur mesure à chaque fois. Et tu sais quoi, celui-là, c'est un film qui a l'air potentiellement, il est presque aussi nul que Dogman.
Bah justement, tu sais que Dogman, j'entendais parler il n'y a pas si longtemps d'un film Dogman qui serait un succès. Et en fait, c'est un film d'animation DreamWorks. Ça n'est pas du tout le film de Besson, dont la sortie aux USA a été complètement confidentiel. Honnêtement, je sais qu'il est sorti, je ne sais pas quand, je ne l'ai pas vu, voilà.
Maintenant, il faut que je te pose une question, Benji, et ça, c'est très important, puisqu'on a entamé le sujet Luc Besson.
Comment on est arrivé à entamer un... C'est Manic ta faute
Pixie,
encore, ça.
Manic Pixie Dream Girl, ouais, Luc Besson, ouais. On en y arrive. Voilà. Je veux te poser une question. À la fin d'année, sort Dracula A Love Tale.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le deuxième prochain Luc Besson, il en a deux qui sortent.
Attends, il en a deux? Oh, putain, mais...
Ouais, parce que le précédent, il l'a fait pendant le Covid, et ça va se voir que c'est à chier. Putain. Mais
on va
par
se
contre,
deux Luc Besson la même.
Et là, c'est l'autre, et il a repris Caleb Landry Jones, le mec qui jouait dans
Dogman, donc.
Dans Dogman.
Mais grand, pas le film d'animation, l'autre.
Ouais, et tu sais quoi? Et donc, c'est un film à gros budget, et je me demande, est-ce que c'est un blockbuster?
Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire gros budget pour un film de Luc Besson de nos jours?
C'est un film à plus de 60 millions, je pense.
Plus de 60 patates, ok.
Est-ce que c'est un blockbuster? Et si oui, est-ce qu'on le met...
Putain, il sort quand?
Il sortirait France 30 juillet 2025.
Ah oh, oui, donc...
Incroyable, il y en a deux qui sortent, mais genre, mais dans un mouchoir de poche, quoi.
Mais à quelques mois d'écart, du coup, ouais.
Ouais. Et il a dû se dire, il faut vraiment des liquidités, c'est ça qu'il a dû se dire. Vite, vite.
Vite, vite, j'ai besoin de sous.
Attends, quand est-ce qu'il sort, June and John? Attends, là, l'affiche Allociné dit prochainement. Ah ouais, non, il y a juste eu le trailer. Mais bon, si t'as le trailer, c'est que ça sort cette année, quoi.
Ouais, ouais, donc Dracula, une histoire d'amour, 30 juillet, ouais, c'est pas possible.
Moi, je pense que c'est un blockbuster. Et je pense que... cette année, on a mérité d'avoir un Luc Besson. Il faut expier de nos péchés.
Eh, tu sais qu'il en a un autre en 2026 qui s'appelle The Last Man.
Ah, non, il a... Genre, vraiment, t'es à court d'idées pour les titres aussi. Tu voulais pas l'appeler Jules et Jim, tu vois, ton film.
Alors, June and John n'a même pas de page Wikipédia France. Par contre, ouais. Dracula en a une. Mais oui, a priori, June and John sort avant.
Ouais.
Alors que Dracula sort en juillet. Mais attends, mais il sort quand, du coup?
Mais je sais pas. Déjà, que le fait qu'il y ait deux mecs qui s'inquiètent de la filmo en rafale de Luc Besson un dimanche soir en France...
On est les deux seuls, hein. On est les deux seuls, c'est sûr.
Ah, c'est sûr qu'on a... Oui.
Ah oui, 23 avril. Donc, 23 avril pour June and John et donc mi-juillet pour l'autre. Donc, mai-juin-juillet, 3 mois d'écart. C'est presque aussi rapproché que la sortie de Marvel.
Ouais, c'est exactement ça.
Quel enfer.
Oh. Mais peut-être qu'il est en train, peut-être que les films sont liés et qu'il y a un truc Luc Besson Cinematic Universe. Hein.
Et donc June and John, ça a été tourné en secret à LA avec un téléphone pendant le confinement même.
C'est vraiment, vraiment... Ah, c'est quoi, on n'arrête pas le talent. C'est ça vraiment le truc. C'est que quand on tient un mec si talentueux, tu peux rien faire.
Tu peux pas l'empêcher de créer. Ah là 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 là.
Heureusement, on finit sur une bonne nouvelle, hein, ce podcast.
Écoute, Dracula, c'est 40 millions d'euros. Ouais, je pense que pour la France, c'est quand même un gros budget.
Ah bah, je pense que 40 millions, c'est ce qu'a coûté, c'est ce qu'a dû coûter le pauvre... je dis le pauvre parce qu'il n'a pas eu de César, mais le Comte de Monte Cristo.
Comte de Monte Cristo, ouais.
Mais enfin, il a eu des Césars, mais il a eu les Césars, genre, tu sais, quand ça passait à la télé, il a demandé de regarder, et moi, je jouais en même temps.
C'était pendant les pubs, quoi.
Ouais, et moi, je lui disais, mais costume, c'est bon. Genre, tu sais, en général, c'est les trucs costume, décor, c'est en général.
Les trucs techniques, ouais.
Les trucs techniques où t'as des genres, des grosses perruques, en général, tu les gagnes toujours. Tu gagnes toujours, 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 toujours.
Donc, et c'est Danny Elfman qui fait la musique du film Dracula, donc.
Ah, ça me fait mal. Ça me fait mal, et en même temps. Je suis content pour la musique.
Que ça soit pas Eric Serra.
Eric Serra. Je suis content pour la musique au nom de la musique tout entière. Tout entière. Parce que tu sais quoi, nous, on s'oppose. Hein, toi, moi, Stéphane, moi, j'ai. Bon, Sting, Phil Collins, comment il s'appelle, le mec des Red Hot et tout ça, machin. Enfin, le Dave Grohl, tout ça. Enfin, on a des goûts qui sont un peu composites et qui se mixent pas trop. Mais il y a un truc qui nous mettra toujours d'accord, c'est que Eric Serra, c'est jamais bien.
Eh ben, écoute, tu sais qu'à une époque, j'aimais bien la BO du Grand Bleu, moi.
Mais oui, mais parce que t'as été jeune. Mais honnêtement, tu réécoutes ça, c'est...
Je l'ai pas... C'est... Après, je t'avoue, c'est vrai que je l'ai pas réécouté depuis plus de 30 ans.
Tu sais quoi ? Vu que t'as reçu les cassettes de ton cousin, demande à ton cousin de te renvoyer le vinyle que t'avais quand t'étais petit.
Non mais j'ai pas besoin. Daniel, je te rappelle que quand on a lancé Parle à mon Luc, j'ai acheté tous ces films-là en DVD et en Blu-ray.
Ah c'est vrai. Peut-être qu'on fait le Grand Bleu, on lance le Grand Bleu pour cet été.
Faudrait au moins qu'on en fasse un cette année, ce serait bien quoi.
Ouais, allez, on se dit le Grand Bleu, allez.
Le Grand Bleu, allez.
Allez, allez.
La version longue, hein, celui qui dure 3 heures.
Oh merde. Amène-moi le petit français, amène-moi Jacques Boyol. Ah là là, Benji, où on s'embarque là?
Eh ben, pour un petit voyage sous l'eau, dans l'océan, avec des dauphins.
Oui. Est-ce que t'as un autre sujet à ajouter avant qu'on passe au reco?
Globalement, non, c'était une c'est bonne grosse semaine de merde. Globalement,
t'as parlé de l'Amérique, t'as parlé de tout, t'as parlé de ton chat.
Écoute, mon petit rayon de soleil, c'est que justement, alors comme on avait deux chats, donc on avait une chatte de 18 ans qui s'appelait Charlotte, et on a un chat qui a 7 ans qui s'appelle Finnegan, et donc Charlotte nous a quittés, et comme Finnegan était, on voyait qu'il se sentait un peu seul, qu'il était un peu malheureux, qu'il se demandait, qu'il la cherchait en fait, qu'il l'attendait à la fenêtre où elle avait l'habitude de dormir, ce matin on est allé adopter une petite minoute, elle a 6 semaines.
Ben on la félicite, elle s'appelle comment ?
Alors pour l'instant on l'appelait Camille. Comme le personnage dans Street Fighter qui aime les chats. Mais vu qu'elle est... c'est une petite chatte noire avec des petites patounes blanches, tu sais, comme si elle avait des chaussettes. Mmh. J'avoue que j'hésite encore. J'ai un peu envie de l'appeler Joan Jett parce qu'elle a un fort caractère. Elle est indépendante et puis elle est brune. Donc, je me disais, pourquoi pas. On hésite encore. Le nom n'est pas définitif, mais pour l'instant, on est sur Camille.
D'accord, ok, bon, bah, c'est, bon bah, c'est, ce sera peut-être Camille, on verra bien.
Ce sera peut-être Camille, mais voilà.
Je vais ajouter un truc, c'est que pour la première fois, je suis allé au ski. Non, c'est pas la première fois que j'allais au ski, mais par contre, c'est la première fois que je reviens, mais blessé.
C'est la première fois que tu t'es arraché au ski.
Je me suis esquinté, et vraiment, je me suis esquinté Vraiment, parce que j'ai une manière de passer les boss qui est très safe. J'ai pas de soucis, j'ai vraiment, je suis très très sûr de ce que je fais. Et là, j'avais un mono qui est adorable, hein. Enfin, un prof qui était là et qui nous a dit, j'étais avec en plus j'avais un pote avec moi, et il nous a dit, ce que tu attaques plus les boss et tout. Et j'ai dit, ok, bah je vais attaquer plus les boss. J'ai tenté un truc, et il y avait sans doute un mec à gauche, sans doute un mec à droite, et j'ai un peu perdu le contrôle, et ça m'arrive rarement, très très rarement comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que mon pied s'est vraiment plié, et j'ai pas déchaussé, donc ça a fait crac 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 crac. J'ai pas entendu un crac, mais par contre j'ai fait aïe 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 aïe, j'ai 4 fois aïe en crayon.
Ce qui est pas bon signe généralement.
Non, c'est pas bon signe. Mais tu sais, je m'étais rien cassé, donc du coup je dis je vais me relever. Et là, je fais, non, c'est quoi, je vais attendre 2 minutes par terre, je vais attendre 2 minutes au sol pour me remonter. Et j'arrive à me remonter, mais tu sais, je suis fébrile comme le mec qui s'est pris un camion, quoi, en fait, c'est bizarre. Alors que j'ai pas eu de choc facial, j'ai pas eu de choc latéral.
Est-ce que t'es sûr, Daniel, que les mecs qui se prennent des camions sont très fébriles après ?
Non, mais tu vois, quelqu'un qui s'est pris, qui s'est... moi, j'ai vu trop John Wick avec les impacts de bagnole pour me dire, ah, bah, finalement, ce n'est qu'une voiture que tu t'es pris dans la gueule, c'est pas si grave.
Ouais.
Mais du coup, j'essaie de me relever. En fait, j'ai eu du mal à me relever. Le mec m'a dit, écoute, je t'appelle une civière, il n'y a pas de souci, tu vas redescendre dans la civière. Je fais, non, je vais y arriver. Et en fait, c'est vrai, je pouvais skier mais en faisant très, très gaffe. Mais par contre, il y a un mouvement, et je ne sais pas lequel, qui me faisait hurler de douleur. Alors, je suis allé voir un médecin, il m'a dit, non, c'est sans doute pas les ligaments croisés, ou les ligaments, ou alors peut-être un ligament qui s'est affaibli, mais par contre, c'est sans doute une déchirure musculaire. Et elle était située au mollet, mais en fait, j'ai l'impression qu'elle remonte toute la jambe, en fait, j'ai peur que ce soit le quadriceps, et ça me fait chier, parce qu'à l'époque où je faisais du kung-fu, le quadriceps, on l'appelait le muscle du bâtard. Ouais. Le muscle bâtard, pourquoi ? Parce que c'est un muscle très très long, donc à échauffer, c'est très très vachement long. Et je crois que c'est parce que j'étais un peu préparé physiquement, et aussi je suis assez souple, hein, parce que des années d'arts martiaux et de yoga, je suis assez souple, donc je pense que c'est grâce à ça que je me suis pas fait plus mal. Donc les gens me disaient, oh là là, tu t'es esquinté, en plus c'est assez tôt dans la semaine, j'étais allé avec mon fils, tu vois. Moi je dis non, mais tant que mon fils il est content, ça va. Et c'est vrai en fait, et bah du coup je fais de la muscu. Je fais de la muscu du haut, quoi, pour pas m'ennuyer. Et je regarde, j'ai deux kinks, j'ai eu deux kinks pendant, il fallait que je m'occupe, donc j'avais des jeux vidéo et tout ça, mais du coup j'ai commencé à regarder les trucs sur YouTube de calisthénie, les mecs qui font de la muscu, mais uniquement genre poids du corps et trucs plutôt sains, tu vois, pas machin in shape.
D'accord, ouais.
Pas machin, une chip. Je veux pas devenir une espèce d'armoire à glace, mais juste de l'entretien. Parce que je me disais, merde, si je fais rien pendant un certain temps, et en plus, peut-être ça peut prendre à pas mal de temps, hein, cette blessure. Parce que là, au point où j'en suis, descendre du métro, si je fais le faux mouvement, je peux hurler.
Bah écoute, je peux que compatir. Je suis passé par là. Je me suis fait une déchirure musculaire au mollet 2 semaines avant ce qui devait être mon passage de grade de ceinture noire à l'époque, et ensuite c'était 6 mois d'arrêt. Donc
6 mois d'arrêt. Mais donc, pourquoi écoute, ils t'ont fait radio et tout ça ?
Ils m'ont fait radio et tout ça, mais globalement c'est une déchirure musculaire. Mais mon médecin m'avait expliqué qu'il y a 3 types de déchirures. Alors je ne suis pas médecin, je ne fais que répéter ce qu'il m'a dit et j'espère ne pas dire trop de bêtises. Mais globalement t'as la déchirure qui est un peu mineure, qui globalement guérit en quelques semaines. T'as à l'extrême inverse du spectre la déchirure totale qui nécessite de la chirurgie pour réattacher le muscle. Et puis t'as celle qui est un peu intermédiaire, ce qui est celle que personne ne veut, parce que globalement tu vas pas faire de chirurgie parce que c'est pas assez abîmé, mais que c'est suffisamment abîmé pour pas guérir rapidement, et donc ça prend des mois. Et du coup il faut faire de la kiné, il faut faire des exercices pour resolidifier le muscle, et ça prend très longtemps. Donc je te souhaite que ce ne soit pas ça, et que d'ici quelques semaines ça aille mieux.
Ouais, bon, écoute, on verra bien. Je garde bon espoir quand même, mais voilà, je me suis vraiment bien esquinté quand même pour un truc vraiment non impressionnant en termes de chute. Hein. Je sais pas, genre j'ai dévalé une falaise ou un truc comme ça. C'est vraiment voilà. Bah écoute, c'est la première fois que je me suis esquinté au ski. Voilà. Il fallait bien que ça arrive. Et,
ouais, bah, c'est quand même dommage que ça arrive. Hein. On espère toujours que ça n'arrive pas.
Je ferai plutôt gaffe et tout. Alors qu'aujourd'hui, les gens font de plus en plus gaffe en plus. Les casques, les
protections. Ah, j'ai vu énormément. Tu portes un casque toi quand tu skis ?
Oui.
D'accord. Moi, j'ai vu énormément de gens porter des casques et j'avoue que quand on est allé skier avec Stéphane pendant notre séjour, j'avais pas de casque et je me sentais un peu coupable. Je me disais, ah merde, ça se trouve, j'aurais dû porter un casque. J'ai l'impression d'être irresponsable. Bon, ça va. J'ai percuté personne. Je me suis pas fait mal, mais.
Tu sais quoi, c'est les accidents où il y a des commotions cérébrales, ou tu vois, où il y a des choses comme ça, il y en a très 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 peu en fait, en vrai. Il y a très 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 peu d'accidents. Mais si c'est ce jour-là où t'en as besoin, tu vois, c'est trop con. Hein, tu vois, tu prends ta voiture pour conduire tous les jours et t'as pas eu d'accident, mais mettons que tu mets pas ta ceinture, parce que je sais que tu mets ta ceinture, mets pas ta ceinture toute l'année, bah t'as pas eu d'accident. Mais le jour où tu vas avoir un accident, ta putain de ceinture, il va falloir que tu l'aies, quoi. C'est juste un truc comme ça. Donc oui, non, mais maintenant, en plus, je crois que le jour où le pauvre Gaspard Ulliel a eu un accident, c'était genre pendant le festival de l'Alpe d'Huez, ou pas longtemps avant ou pendant, tu vois. Donc et du jour au lendemain, tout le monde dans la vallée avait un casque. Genre du jour au lendemain, les gens se sont dit, ah bon, en fait. Et de toute manière, si tu mets un casque à un enfant, il y a une raison, c'est parce que tu veux pas qu'il ait de choc à la tête.
Bien sûr.
Et ça veut dire que les adultes, c'est pareil, tu veux pas te cogner la tête, quoi. La tête, c'est quand même un truc assez sensible. Mais je tiens à te dire, et là c'est véridique. Mm-hmm. Devine qui ne portait pas de casque et qui avait l'air d'un full connard sur la piste de ski.
Tu me l'as dit sur Signal, mais je te laisse dévoiler le mystère.
Et vous allez pas me croire, parce que ça pourrait être Balkany. Mais non, c'est pas Balkany. C'est Raphaël Enthoven.
Mais ça me surprend que tu me dises qu'il avait l'air d'un full connard sur les pistes, parce qu'il n'a pas du tout l'air d'un full connard quand il est au Café de Flore, par exemple. Ah si,
non,
en fait.
Non, mais en fait, tu sais quoi. Et même quand il parle de manière casu à quelqu'un, il a l'air... Il est aussi imbuvable qu'à la télé sur ces news et tout ça, quoi. C'est le même personnage. Il n'y a pas une once de... Genre, c'est toujours le brou, brou, brou. C'est du blibliblu qui ne sert à rien. C'est vraiment une vie à servir à rien. Ah, et j'ai même dit... Et je crois
c'est une carrière au service de la médiocrité, on dit.
Mais tu sais quoi, je m'en veux parce que j'ai exprimé mon mal-être de le voir... Et je l'ai exprimé aux gens de mon groupe. Et les filles m'ont fait « Ah non, on l'adore !» Et là, je me suis senti un peu déjà isolé. Et peut-être que c'est ça, en fait. J'ai exprimé...
C'est là que tu t'es rendu compte que le ski est un loisir de droite, en fait.
Non, oui, peut-être, mais c'est surtout... Ou de personnes qui habitent pile en bas des stations.
Voilà, soit t'es local, comme soit t'es de droite, hein, vu que comme le ski, Stéphane. Ça coûte... Voilà, vu comme le ski, ça coûte cher, si t'es pas local, c'est compliqué quand même.
Ouais. Et donc... Non, je n'ai pas fait de queue de poisson, j'ai pas eu le temps. Mais Dieu seul sait que j'y ai pensé.
Alors que franchement, tu as vraiment pensé à lui faire une Schumacher.
Non, quand même pas, faut pas déconner.
Tu as parlé de jeux vidéo et de sport de combat, ce qui est une transition parfaite, puisque la semaine dernière, on a eu un accès à la bêta de la suite de Mark of the Wolves qui s'appelle City of the Wolves.
Ah, c'était ça dont on n'a pas parlé dans... Le Sumimasen Turbo qui a duré 4 heures.
C'est vrai, ils n'en avaient pas parlé.
Si, ils en ont parlé. Mais moi, j'étais pas là quand il est. Bah justement, j'étais dans la montagne quand au moment où c'était là.
Ah, bah évidemment. Donc, Mark of the Wolves, on le rappelle, qui est l'ultime épisode de la saga Fatal Fury, enfin jusqu'ici, ultime, qui était globalement une remise à plat de ce qu'était Fatal Fury, qui avait abandonné des systèmes de jeu historiques de la série, comme notamment les multiples plans pour le combat, qui avait complètement redessiné ses sprites, qui globalement avait tout jeté sauf un, il n'y avait que Terry, tous les autres c'était des nouveaux personnages. Et ben, Mark of the Wolves, il avait quand même marqué son époque. C'était à SNK ce que Street Fighter 3 avait été à Capcom. C'était une remise à zéro, en fait, d'une série légendaire.
C'est un grand jeu, Mark of the Wolves. Ouais.
Et Mark of the Wolves, c'est vraiment un jeu immense, et d'autant plus immense que il a jamais eu de suite, donc ça lui a ajouté un petit côté un petit peu sacré. Et donc, cette suite, elle a été annoncée maintenant, il y a quelques années. Elle est développée en 2,5D parce que de la 2D, je pense qu'il faut faire une croix dessus. Ça n'arrivera pas. Ils ne referont pas de jeu en 2D comme à la grande époque.
Il faut, c'est un know-how que les gens ont un peu perdu maintenant, tu sais.
Oui, aussi, je pense que le mieux qu'on peut avoir, c'est des jeux en 3D avec des shaders qui te donnent l'impression de la 2D, comme les derniers Guilty ou les trucs comme ça.
Ou Dragon Ball, ouais.
Oui, voilà, ou Dragon Ball FighterZ. Donc j'ai joué un petit peu à cette bêta de City of the Wolves. Et alors, la machine sur laquelle j'ai joué n'avait pas de manette, donc j'ai joué au clavier. Je peux pas dire que mon expérience a été idéale, mais ça m'a quand même permis. Tu sais, il y a des gens qui jouent au clavier au jeu de combat hein, sur PC.
Oui, bien sûr. Mais...
Parce qu'avant que les leverless existent, c'était la manière que tu pouvais utiliser pour charger un coup tout en te déplaçant vers l'avant. Quoi. Mmh. C'était de jouer au clavier. Mine de rien, je me suis quand même bien amusé. Le netcode a pas l'air mauvais. Surtout en comparaison au netcode de la version actuelle sur Steam ou sur GOG de Mark of the Wolves, où là, il y a vraiment du lag et c'est vraiment compliqué. Là, c'était vraiment correct. J'ai joué avec des gens en France et honnêtement, j'ai pas tellement eu à me plaindre. C'était chouette. Alors après, il reste évidemment toujours le dilemme moral quand on sait à qui appartient SNK. J'ai tenu pendant super longtemps et je n'ai jamais acheté KOF 15 parce que je refuse de financer, de filer de l'argent à ces gens-là, quoi. Puisqu'on le rappelle, SNK est maintenant la propriété comment il s'appelle ? Alors, J'ai oublié le nom,
mais mec d'Arabie
globalement,
Saoudite.
Globalement, le mec d'Arabie Saoudite qui a commandité l'assassinat du journaliste à l'ambassade aux États-Unis, quoi, globalement.
Ouais.
Bref, un assassin. Donc ça fait un peu chier de filer de l'argent à ces gens-là. Alors là, la bêta, j'ai pas payé, donc j'y ai joué. Ça va être moralement difficile de justifier d'acheter City of the Wolves. Mais dans le même temps, le jeu est cool, quoi. Et ça fait chier, justement, que des gens talentueux travaillent pour un type pareil, quoi. Donc c'est vraiment très, 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 très relou. Après, je jugerai personne, hein, si vous avez envie d'acheter le jeu, parce que le jeu est bon. C'est
ou que vous travaillez pour eux. Hein,
franchement, c'est pas du tout une
parce
histoire
que
de vous
c'est
juger.
C'est quoi, un jour, tu travailles pour quelqu'un et tout d'un coup, t'es racheté et voilà,
exactement.
Qu'est-ce que tu fais après, tu vois ?
Ah bah, on choisit pas forcément son propriétaire, surtout si on était déjà dans la boîte avant le rachat. Mmh. Et puis voilà, après, il y a des gens, il faut bien qu'ils bouffent. Donc, il n'y a absolument pas de jugement de ma part là-dessus.
Nous, on est obligés de. Bah, parce que nous, on doit suivre l'actu, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Tu peux toujours avoir une distance morale parce que personnelle, parce que c'est toi et parce que tu as. Mais tu vois, c'est comme. Moi, je me mets à la place de tous les gens qui adorent... comment il s'appelle le truc méga connu ? Harry Potter.
Oui,
Je suis toujours pas à jour sur Harry Potter, mais tout d'un coup, et ce truc devient... Enfin, tu vois l'autrice qui part en vrille sur le sujet des trans. Et je comprends les gens qui étaient fans d'Harry Potter et qui, tout d'un coup, ne peuvent plus voir Harry Potter en peinture parce que c'est trop dur pour eux.
Ouais. Donc voilà, donc je pense que moi,
je vais vraiment devoir
difficilement me retenir de l'acheter parce que le jeu fait très envie, parce que c'est la suite d'un jeu avec lequel j'ai passé des heures formidables quand j'étais plus jeune. Mais voilà, moralement, j'ai vraiment du mal à me justifier moi-même que putain, je vais donner de l'argent à ce type-là, quoi. Bref, je ne sais toujours pas ce que je vais faire, mais en tout cas, quel que soit votre choix, il vous appartient. Sachez que nous, on n'est pas là pour vous juger. Mais je trouvais important de rappeler qui était le propriétaire, des fois que des gens ne le sachent pas, en fait. Voilà, c'était ça ce que je voulais faire. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas au courant d'à qui appartient SNK de nos jours et qui, peut-être maintenant, vont un petit peu réfléchir à « Tiens, est-ce que j'ai vraiment envie de financer ça, quoi ?» Voilà.
Benji ?
Oui.
Tu sais qu'After Eight est un titre trompeur ?
Ah bah oui, parce qu'à la fin on fait des recommandations, c'est ça ?
On fait des recommandations.
Et alors, il faut que je commence ?
Bah ouais, vas-y.
Alors, je l'ai noté sur un papier parce qu'à chaque fois j'ai peur de me gourer et de dire le mauvais nom, mais j'ai...
Ah c'est bon, tu t'es gouré.
Non, ah merde. j'ai terminé, je vais dire récemment, mais en fait c'était déjà le mois dernier, Star Wars Jedi Fallen Order. Alors on parlait de compagnie peu recommandable, bon c'est un jeu Electronic Arts, sachez-le. Mais c'est un jeu Star Wars aussi, et c'est un jeu Star Wars qui est sorti en 2019, donc ce n'est pas le dernier en... Alors le dernier en date, c'est un jeu Ubisoft, celui d'avant non plus, c'est la suite de celui dont je vais parler, donc moi je parle vraiment du premier de cette licence, Star Wars Jedi. Et Fallen Order, qu'est-ce que c'est ? Eh bien en fait, ça raconte l'histoire de Cal Kestis, qui est un Jedi qui s'est retrouvé exilé sur une espèce de planète dépotoir qui fait du recyclage de vieux vaisseaux spatiaux en attendant de pouvoir en partir. Et on peut globalement dire, sans trop rentrer dans les détails, que c'est le Dark Souls de Star Wars. Alors pour quelle raison ? Bah déjà au niveau gameplay, t'as un level design avec des raccourcis qui se débloquent, t'as des boss avec des barres de vie super longues, t'as globalement, c'est pas des feux de camp, mais c'est globalement la même chose en fait, des ennemis qui respawnent quand tu te recharges à un endroit où tu peux t'arrêter et méditer pour, je sais plus ce que tu fais, tu communies avec la force, un truc comme ça, bon bref. Donc globalement, on retrouve pas mal de choses que moi j'aimais dans Dark Souls en fait. C'était vraiment des trucs qui faisaient partie des choses que j'aimais dans Dark Souls, mais ce qui m'a toujours bloqué avec Dark Souls, c'est ce sentiment de devoir me battre avec le personnage plutôt que d'avoir un personnage qui répond à ce que je lui dis. Et je sais que bon, c'est pas forcément partagé par tout le monde, mais moi c'est mon expérience de Dark Souls. Et ben là, j'ai pas eu ça. Là, j'ai eu un personnage qui répondait correctement, comme dans Sekiro, un personnage qui était plutôt leste, qui était plutôt rapide. Et puis bah, les combats au sabre laser, ça m'a un peu rappelé justement les combats à l'épée de Sekiro avec du parry, avec des parades, avec des blocages, avec cette sensation de puissance quand avec ton sabre laser tu renvoies un coup de pistolet laser dans la gueule d'un Stormtrooper, c'était vraiment super jouissif. Et ouais, non, j'ai retrouvé vraiment ce qui m'avait plu dans Dark Souls, donc cette science du level design, parce que c'est vraiment, alors sans être aussi bien que le premier Dark Souls, je veux quand même pas exagérer, mais globalement, ils ont retenu les bonnes leçons, quoi. Ils ont fait leur devoir, les petits gars de chez Electronic Arts, et vraiment, ce jeu m'a vraiment donné du plaisir. Et je suis pas forcément non plus un fan hardcore de Star Wars, ça m'a vraiment plu en tant que fan occasionnel de la licence, et j'ai passé un excellent moment. Et ouais, c'est plutôt bien écrit, il y a des personnages attachants, c'est vraiment chouette, il y a pas mal de trucs cachés, il y a des secrets à découvrir. Et honnêtement, si t'es en manque de jeux du genre, ben ça peut tout à fait faire le boulot. Toi, Daniel, je sais pas si tu te les étais fait, ces jeux-là.
Alors, je me suis fait le premier jusqu'à un certain point.
Ouais.
Il y a un moment, des moutons Jedi qui se sont mis à me flinguer. Ils me tuaient tout le temps. Et
ah
j'ai
oui,
fait...
le mouton qui te fonce dessus, oui.
Et moi, j'ai fait non. C'est bon.
Et ben, tu sais que tu peux les parer, hein. Tu
non, mais
ta parade.
Je suis trop vieux pour ces conneries. J'ai dit, je suis un ras de cul d'être un Jedi et de me faire taper par des moutons. J'ai dit, c'est non. Et j'ai arrêté là. C'est juste au moment où le jeu commence à s'ouvrir et il commence à avoir des maps. Et
mais Daniel, dans Dark Souls, il y a un sanglier.
Non, mais ouais, ça me pose pas de problème. C'est genre, par rapport à l'idée qu'on se fait d'un Jedi, genre, si le Jedi peut pas, il se fait taper par un mouton ou par une chèvre. C'est qu'il y a un problème, il y a un problème structurel dans ce que tu es en train de raconter. Quoi.
Mais alors, je suis pas d'accord, parce que
non,
scénaristiquement... Non, laisse-moi
c'est
finir.
C'est l'impression que ça m'a donné.
Scénaristiquement, ton Jedi, justement, il a des difficultés à gérer la force. Donc, le fait qu'il n'arrive pas à gérer un... Alors, c'est des espèces de boucs, en fait. C'est pas tellement des moutons, ils ont des grosses cornes et ils sont agressifs.
Ouais, non, un peu d'exactitude sur ce que tu dis. Ouais,
voilà, soyons précis. Mais non, ton personnage, justement, il a des gros problèmes. Il a perdu, en fait, la foi en la force et donc il a du mal à gérer. Donc non, scénaristiquement,
c'est
justifié.
C'est raison. Ouais, bien sûr.
Bah ouais.
Non, ça m'a saoulé. Mais
après,
tu sais quoi ?
Après, problème de skill.
C'est pas tant toi, mais plutôt un ami qui m'a dit que le dernier niveau, un des niveaux, c'est vraiment genre un des meilleurs niveaux à la Dark Souls, d'un Souls-like. Et genre, je me suis dit, ah, ça c'est quand même un bon argument, peut-être que je me le ferai un jour.
Ouais,
Il paraît que, en tout cas, le premier est vachement mieux que le 2.
Ah, alors j'ai pas encore fait le 2, du coup tu me fais peur, mais vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé le premier. Hein. J'ai passé un très bon moment.
Que le 2 est vraiment pas bon dans ce genre-là.
Bon, bah et écoute, je pense le faire, donc je verrai. Eh bah c'est comme Dark Souls du coup. Vu
que le 2 est moins
j'ai
bon.
Pas fait le 2, mais moi ce que j'en lis, c'est que le 2 globalement il est beaucoup moins aimé que le premier. Quoi.
Alors il est beaucoup moins
et
aimé
que le 3.
Je trouve énormément de charme, mais évidemment il est moins bon. Hein. En tout point, mais il a des moments de... Des envolées avec ces décors. Les décors de Dark Souls 2, ils sont extraordinaires.
D'accord.
Donc, vraiment, c'est un jeu que j'aime. Mais par contre, en termes de maniable, c'est un peu différent. Mais il y a vraiment des très, très, très bonnes idées dans Dark Souls 2. J'adore Dark Souls 2.
Bah donc, écoute, moi, Marocco, c'est Star Wars Jedi Fallen Order. Alors, je ne me souviens plus si je l'ai vu gratuit sur le PlayStation Plus Essentials ou si je l'avais acheté genre à moins 90% à prix massacré, parce que c'est typiquement un jeu que j'aurais pas acheté de base à plein tarif, mais en solde, je me suis peut-être laissé embarquer. Mais si jamais il est passé dans le PS Plus, que vous l'avez dans votre backlog et que vous hésitez à vous en lancer, bah allez-y, franchement, c'est de la bonne cam.
Et pour ma part, je vais recommander un jeu. Alors, c'est un peu bizarre, mais en fait, j'ai assisté à l'enregistrement d'un... Je vais spoiler un peu une vidéo qui arrive de Soumimasen. J'ai regardé Pouillon en train de jouer à un jeu. Et un jeu auquel j'avais joué, c'est Warriors Abyss. Alors, Warriors Abyss, c'était un Shadow Drop de Koei Tecmo qui reprend, en fait, un mini-jeu qui était déjà dans un Dynasty Warrior.
Ouais.
Mais qu'ils ont élaboré. Et en fait, c'est un... Hades-like, mais avec Dynasty Warrior.
Donc c'est un Musou, mais en roguelite ?
Non, c'est un Hades, en fait. Faut voir que c'est Hades. Parce que c'est
d'accord.
En vue isométrique, pareil.
Donc le côté Musou est plus là, quoi.
Et que en plus, tu dois choisir le niveau suivant avec des portes qui t'indiquent ce qu'il va avoir derrière, ce qui est Hades complètement. Et en plus, tu te fais un build avec les personnages des Musou, c'est-à-dire de Dynasty Warrior et de Samurai Warrior. Donc c'est vraiment un mélange, ça ressemble à Orochi en fait, en termes de personnages. Et du coup, en fait, j'ai regardé Puyo, et en fait, il avait compris le truc des builds, et il avait compris un peu le schéma, pourquoi moi, j'arrivais pas à monter, et en fait, il m'a mis le doigt sur... Je l'ai vu jouer, hein, j'ai juste vu jouer parce que j'ai pas participé à l'émission, c'était Greg et Puyo. Et du coup, c'était passionnant de les voir tous les deux, et du coup, je me suis dit... Et du coup, là, c'est Marocco. J'ai joué un certain temps là, justement, et je commence à m'acharner un peu, comme Hades. En plus, il y a un petit facteur de... Si tu débloques des généraux, et ben ça t'augmente ton pourcentage de frappe, de pourcentage, tu passes de 11 à 12 d'attaque, à 13 et à 14, et ainsi de suite. Donc, tu augmentes au fur et à mesure un tout petit peu. Et en plus, tu joues mieux, donc c'est comme une espèce de courbe qui un jour va arriver. Peut-être, je l'espère, jusqu'à gagner, jusqu'à triompher dans ce jeu. Mais en tout cas, je commence à y prendre plaisir. Mais voilà, il m'a fallu un peu de temps et une démo de Puyo pour comprendre la mécanique. Donc, c'est Warriors Abyss. C'est un jeu qui est dispo pour 20 balles. Je crois que pour 20 balles, hein, sur PSN et sur Switch, et aussi sur Xbox, et aussi sur PC, mais faut surtout prendre la version de base et pas prendre les costumes, parce que t'as une version avec costumes et ça coûte super cher et tout, je crois. Faut pas en avoir rien à foutre des costumes, faut aller directement au jeu, et du coup le jeu est un... c'est pas mal. Alors après, je peux pas garantir et le prix, et le... parce que ça se trouve, d'ici à ce que vous écoutez, ce sera super soldé, j'en sais rien. Mais par contre... Pour moi qui suis en manque d'Hades, j'attends Hades 2 version définitive et il n'arrive pas tout de suite. Donc du coup, j'attends Hades 2.
Ouais.
Et en attendant Hades 2, bah, ça c'est un truc, mais avec les musiques de Dynasty Warrior, donc c'est quand même la classe. Je suis en train de me dire que la fois précédente, j'avais recommandé Dynasty Warrior Origins. Donc c'est un peu leur année en fait de Koei Tecmo. Et je suis assez content, je suis assez content pour eux.
Très bien.
Benji,
oui.
On a tout dit.
C'est vrai.
On remercie tous les gens qui nous soutiennent sur patreon.com/RPU et qui permettent justement de payer l'hébergement de ce podcast et aussi de produire tous les autres podcasts, Super Ciné Battle ou La Moto de Qui Déjà.
Voilà.
Et on vous remercie de nous soutenir parce que c'est important. Ça nous permet vraiment de maintenir ce podcast. On va essayer de faire un rythme un peu plus soutenu. C'est vrai que c'était très chaotique. Le mois de février pour il y a eu les incendies qui ont retardé, ensuite il y a eu les événements de toi et moi, enfin vraiment c'était un peu...
Et puis il y a la moto, hein, ça m'occupe une semaine sur deux, donc évidemment oui, ça nous laisse beaucoup moins de marge de manœuvre.
Il faut pas que je loupe Benji la semaine, parce que sinon il fait « Oh non, je suis à la moto et tout », et je me sens abandonné. Abandonné, Benji, c'est pas sympa.
Mais tu sais, tu pourrais nous rejoindre, tu pourrais lire le livre d'Ernest avec nous et voilà.
Tu sais quoi, choisis-moi deux pages et je viens et j'analyse deux pages avec vous.
Deux pages, mec, on en analyse 60 par épisode.
Je veux que deux pages. Mais choisis-moi les deux pages.
Tu viens pas à moitié, soit tu viens à fond.
Mais choisis-moi deux pages. Tu sais, moi, regarde, j'ai un livre sur mon bureau et je peux te dire, je te prends deux pages.
C'est lequel? C'est Jean-François Copé?
Non, le problème, c'est que c'est en français alors que normalement ça devrait être en anglais et je vais le traduire au fur et à mesure. I can live with the idea of not using my right leg as my main leg, but the consequence of my idiotic fall from the window of the Franklin is that in Mexico, a man in the arena, a man with a lasso, told me that this event is part of my life. It is pura vida.
Donc c'est Werner Herzog?
C'est un bouquin que je recommande. C'est Les Mémoires de Werner Herzog qui est sorti fin d'année dernière. Donc voilà.
D'accord.
Mais bien sûr, il est en français, mais j'ai fait exprès de le lire en anglais pour rester. J'ai traduit au fur et à mesure. Pour rester fidèle à
l'esprit de Werner.
À Werner, ouais, voilà. This is over, Benjamin. On embrasse Werner Herzog aussi. Le vrai, hein, pas Stéphane. Et donc, vous pouvez nous retrouver sur After Eight, sur le site aftereight.fr. Peut-être que le prochain épisode, ça sera le gravage dans le vent. On vous remercie à tous de nous suivre et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao!
Et peut-être que d'ici là, on saura de quoi Gene Hackman est mort.
Oh non, mais...
Bah peut-être qu'on saura, parce que oui, là, on sait pas. c'est mystère soit... quand même, c'est mystère mystérieux.
Non, il faut pas que ce soit ta phrase conclusive.
Bah
dis
pourquoi
juste,
pas.
Dis juste au revoir.
Bon, au revoir, bisous!
Ah non, mais on peut pas finir sur le mystère de Gene Hackman.
Bah si. Non. Ça s'appelle un cliffhanger, Daniel.
Non.
Tu sais, mais faut donner envie aux gens de revenir.
C'est un gentil mec, j'adorais Gene Hackman.
Mais moi aussi, j'avais absolument rien contre lui, mais c'est pour ça que c'est mystérieux.
Bon, allez, je coupe.
Aïe.
Improduction, air pollue.